Préface. Page d'archives préhistoriques. Un manuscrit archaïque, assemblage de feuilles de palmier rendues par quelque procédé inconnu, inaltérable à l'eau, au feu et à l'air, se trouve sous les yeux de l'auteur. Sur la première page, l'on voit un disque blanc immaculé sur fond noir. Sur la suivante, il y a un disque semblable avec un point au centre. L'étudiant sait que le premier représente le cosmos dans l'éternité, avant le réveil de l'énergie encore assoupie, émanation de l'univers en des systèmes postérieurs. Le point dans le cercle, jusqu'alors immaculé, l'espace et l'éternité en pralaya, indique l'aurore de la différenciation. C'est le point dans l'œuf du monde, le germe qu'il contient deviendra l'univers, le tout, le cosmos illimité et périodique, ce germe étant périodiquement et tour à tour latent et actif. Le cercle unique est l'unité divine dont tout procède ou tout retourne. Sa circonférence, symbole forcément limité, de par les limites même de l'esprit humain, indique la présence abstraite, à jamais inconnaissable, et son plan, l'âme universelle, bien que les deux ne fassent qu'un. Cependant, la surface du disque est blanche et le fond qui l'entoure noir. Cela montre clairement que ce plan est la seule connaissance, quelque embrumée qu'elle soit encore, qui soit accessible à l'homme. C'est sur ce plan que commencent les manifestations manvantariques. Car c'est dans cette âme que dort, durant le pralaya, la pensée divine, où gît caché le plan de toute cosmogonie et théogonie future. Il est à peine nécessaire de rappeler au lecteur que le terme « pensée divine », comme celui de « mental universel », ne doivent pas être considérés comme ayant un rapport, même lointain, avec les opérations intellectuelles de l'homme. L'inconscient, d'après von Hartmann, est arrivé au vaste plan de la création, ou plutôt de l'évolution, par une sagesse clairvoyante supérieure à toute conscience, ce qui, en langage védantin, signifierait la sagesse absolue. Ceux-là seuls qui comprennent combien l'intuition plane au-dessus des lents processus de la pensée ratiocinante peuvent se former une très vague conception de cette sagesse absolue qui transcende les idées de temps et d'espace. Le mental, tel que nous le connaissons, peut se résoudre en état de conscience, variant en durée, intensité, complications, etc. Mais au bout du compte, tous fondés sur la sensation qui est toujours Maya. À son tour, la sensation implique nécessairement des limites. Le Dieu personnel du théisme orthodoxe perçoit, pense et s'émeut. Il se repent et ressent une grande colère. Mais la notion de pareils états mentaux implique clairement l'impensable postulat de l'extériorité des stimulus d'excitation, pour ne rien dire de l'impossibilité d'attribuer l'immuabilité à un être dont les émotions ondoient avec les événements des mondes qu'il préside. La conception d'un Dieu personnel, considéré comme immuable et infini, est donc antipsychologique et, ce qui est pis, antiphilosophique. C'est la vie unique, éternelle, invisible et pourtant omniprésente, sans commencement ni fin, et pourtant régulière dans ses manifestations périodiques, entre lesquelles règne le sombre mystère du non-être, inconsciente et pourtant conscience absolue, incompréhensible et pourtant la seule réalité par soi-même existante. Vraiment, un chaos pour les sens, un cosmos pour la raison. Son attribut unique et absolu, qui est elle-même l'éternel et incessant mouvement, est appelé en langage ésotérique le grand souffle. Platon prouve sa qualité d'initié en disant dans le Cratyle que le souffle est dérivé du verbe « se mouvoir, courir », car les premiers astronomes qui observèrent les mouvements des corps célestes appelèrent les planètes les dieux. Plus tard, le mot produisit un autre terme, le souffle de Dieu. C'est le mouvement perpétuel de l'univers, dans le sens d'espace sans limite et à jamais présent. Ce qui est immobile ne peut être divin. Mais en fait et en réalité, il n'y a rien d'absolument immobile dans l'homme universel. Près de 5 siècles avant Jésus-Christ, Leucippe, précepteur de Démocrite, maintenait que l'espace était éternellement rempli d'atomes animés d'un mouvement incessant, lequel, en temps voulu, lorsque ces atomes s'agrégèrent, engendra un mouvement rotatoire par des collisions mutuelles qui produisirent des mouvements latéraux. Épicure et Lucrèce enseignèrent la même doctrine, ajoutant seulement au mouvement latéral des atomes l'idée de leur affinité, qui est un enseignement occulte. Depuis le commencement de l'héritage humain, depuis la première apparition des architectes du globe sur lequel nous vivons, la divinité non révélée fut reconnue et considérée sous son unique aspect philosophique, le mouvement universel, le frisson du souffle créateur dans la nature. L'occultisme résume ainsi l'existence unique. La divinité est un arcane, un feu vivant ou mouvant, et les éternels témoins de cette présence invisible sont la lumière, la chaleur et l'humidité. Cette trinité incluant tous les phénomènes de la nature et en étant la cause. Note. Les nominalistes prétendent, avec Berkeley, qu'il est impossible de se faire une idée abstraite du mouvement séparé du corps en mouvement, extrait des principes de la connaissance humaine. Quel est ce corps, producteur de ce mouvement? Est-ce une substance? Alors vous croyez à un Dieu personnel? Nous répondrons plus tard dans un appendice. En attendant, nous réclamons nos droits de conceptionnalistes, en opposition avec les vues matérialistes de Rocellini sur le réalisme et le nominalisme. Est-ce que la science, demande un de ses meilleurs avocats, Édouard Claude, a rien révélé qui porte atteinte ou s'oppose aux anciennes paroles où est donnée l'essence de toutes les religions passées, présentes ou futures? Agir justement, aimer la pitié, marcher humblement devant ton Dieu. Il suffit que nous comprenions, par le mot Dieu, non pas le grossier anthropomorphisme qui forme encore la charpente de notre théologie courante, mais la conception symbolique de ce qui est la vie et le mouvement de l'univers. Connaître cela, dans l'ordre physique, c'est connaître le temps passé, présent et à venir dans la succession des phénomènes. Le connaître, dans l'ordre moral, c'est connaître ce qui a été, ce qui est et ce qui sera dans la conscience humaine. Voir Science et émotion, conférence faite à South Place Chapel, Finsbury, Londres, le 27 décembre 1885. Le mouvement intracosmique est éternel et incessant. Le mouvement cosmique, celui qui est visible ou perceptible, est fini et périodique. Comme abstraction éternelle, c'est le toujours présent. Comme manifestation, il est fini et dans la direction de l'avenir et dans la direction du passé, les deux étant l'alpha et l'oméga des reconstructions successives. Le cosmos, le noumenon, n'a rien à faire avec les relations causales du monde phénoménal. C'est seulement par rapport à l'âme intracosmique, au cosmos idéal dans l'immuable pensée divine, que nous pouvons dire « il n'a jamais eu de commencement et n'aura jamais de fin ». En ce qui concerne son corps ou l'organisation cosmique, bien qu'on ne puisse dire que jamais il ait eu une première construction ou doive en avoir une dernière, cependant, à chaque nouveau Manvantara, son organisation peut être regardée comme la première et la dernière de son espèce, car il évolue chaque fois sur un plan supérieur. Nous disions il y a quelques années, la doctrine ésotérique enseigne, comme le bouddhisme, le brahmanisme et même la kabbale, que l'essence une, infinie et inconnue, existe de toute éternité et devient tour à tour passive et active en succession régulière et harmonieuse. Dans le langage poétique de Manu, ces conditions sont appelées les jours et les nuits de Brahma. Celui-ci est éveillé ou endormi. Les Svabhavika, ou philosophes de la plus vieille école du bouddhisme qui existe encore au Népal, bornent leur spéculation à la condition active de cette essence, qu'ils appellent Svabhavat, et pensent qu'il est insensé de faire des théories sur la puissance abstraite et inconnaissable dans sa condition passive. Aussi sont-ils appelés athées par les théologiens chrétiens et les savants modernes qui ne comprennent pas la logique profonde de leur philosophie. Les théologiens ne veulent pas admettre d'autre Dieu que la personnification des puissances secondaires qui ont façonné l'univers visible et qui pour eux sont devenus le Dieu anthropomorphique des chrétiens, le mâle Jéhovah, rugissant au sein des éclairs et du tonnerre. De son côté, la science rationaliste salue les bouddhistes et les svabhavika comme les positivistes des âges archaïques. Si l'on envisage la philosophie de ces derniers que d'un côté, nos matérialistes peuvent avoir raison à leur manière. Les bouddhistes soutiennent qu'il n'y a pas de créateur, mais un nombre infini de puissances créatrices, dont l'ensemble forme la substance une et éternelle, dont l'essence est inscrutable, et ne peut par conséquent être un sujet de spéculation pour un véritable philosophe. Socrate refusa toujours de discuter sur le mystère de l'être universel, et pourtant nul n'aurait songé à l'accuser jamais d'athéisme, sauf ceux qui avaient juré sa perte. Au début d'une période active, dit la doctrine secrète, une expansion de cette essence divine a lieu, de dehors en dedans et de dedans en dehors, en vertu de la loi éternelle et immuable, et l'univers phénoménal ou visible est le résultat ultime de la longue chaîne des forces cosmiques ainsi progressivement mises en mouvement. De même, en retournant à la condition passive, la divine essence se contracte et l'œuvre antérieure de la création est graduellement et progressivement défaite. L'univers visible se désintègre, ses matériaux se dispersent, et seules les ténèbres couvrent une fois de plus la face de l'abîme. Pour employer une métaphore des livres secrets, qui rendra l'idée encore plus claire, une expiration de l'essence inconnue produit le monde, et une inspiration le fait disparaître. Ce processus a été en action de toute éternité, et notre univers actuel n'est que l'un des termes d'une série infinie qui n'a pas eu de commencement et qui n'aura pas de fin. Ce passage sera expliqué autant que possible dans le présent ouvrage. Bien que ne contenant rien d'essentiellement nouveau sous cette forme pour un orientaliste, son interprétation ésotérique peut contenir bien des choses jusqu'ici inconnues de l'étudiant occidental. La première figure était un simple disque. La seconde, dans le symbole archaïque, un disque avec un point au milieu, première différenciation dans les manifestations périodiques de la nature toujours éternelle, l'insexuel et infini, aditi dans cela, le point dans le cercle ou l'espace potentiel dans l'espace abstrait. À la troisième phase, le point se transforme en un diamètre. C'est le symbole de la mère nature, divine et immaculée, dans l'infini absolu et qui embrasse tout. Quand ce diamètre est croisé par un autre diamètre vertical, nous avons la croix du monde. L'humanité a atteint sa troisième race racine. C'est le signal du commencement de la vie humaine. Quand la circonférence disparaît et ne laisse que la croix, c'est le signe que la chute de l'homme dans la matière est complète. Et la quatrième race commence. La croix dans le cercle est un symbole purement panthéiste. Lorsqu'on supprime le cercle circonscrit, le symbole devient phallique. Il avait le même sens et d'autres encore sous la forme de taux, T-A-U, inscrit dans un cercle, ou comme marteau de Thor, la croix dite Jaina, ou simplement la svastika dans le cercle. Le troisième symbole, le cercle divisé en deux par la ligne horizontale du diamètre, signifiait la première manifestation de la nature créatrice, encore passive parce que féminine. La première perception vague de l'homme en ce qui concerne la procréation est féminine parce que l'homme connaît plus sa mère que son père. Ainsi, les divinités féminines étaient-elles plus sacrées que les masculines ? La nature est donc féminine et jusqu'à un certain point objective et tangible, et le principe spirituel qui l'a fait fructifier est caché. Note. D'après ce que disent les mathématiciens occidentaux et quelques kabbalistes américains, en kabbale aussi, La valeur du nom de Jéhovah est celle du diamètre d'un cercle. Ajoutez à cela que Jéhovah est la troisième séphirot, Bina, mot féminin, et vous aurez la clé du mystère. Par certaines transformations kabbalistiques, ce nom, androgyne dans les premiers chapitres de la Genèse, devient entièrement masculin, caïnite et phallique. Le choix d'une divinité parmi les dieux païens dont on fait un dieu spécial et national, appelé le dieu un et vivant, le dieu des dieux, et de proclamer alors son culte monothéiste, ne suffit pas à changer cette divinité en ce principe unique, dont l'unité n'admet pas de multiplication, de changement ni de forme, spécialement dans le cas d'une divinité priapique, comme il est maintenant démontré que c'est le cas pour Jéhovah. Fin de note. En ajoutant une ligne perpendiculaire au diamètre horizontal du cercle, on formait le tau, la plus vieille forme de cette lettre. C'était le glyphe de la troisième race racine jusqu'au jour de sa chute symbolique, quand la séparation des sexes eut lieu par évolution naturelle. Alors la figure devint le cercle où vit un sexuel modifié et divisé, un double glyphe ou symbole. Avec les sous-races de notre cinquième race, il devint en symbologie le sacre et en hébreu Nkabva, des races primitivement formées, puis il se transforma chez les Égyptiens en le tau, emblème de vie, et plus tard encore en le signe de Vénus. Puis vient le svastika, le marteau de Thor ou la croix hermétique actuelle, entièrement séparé de son cercle et devenu ainsi purement phallique. Le symbole ésotérique du Kali Yuga est l'étoile à cinq branches renversées, le signe de la sorcellerie humaine, avec ses deux pointes cornes tournées vers le ciel, position que tout occultiste reconnaîtra comme appartenant à la magie de la main gauche et employée en magie cérémonielle. Il faut espérer que la lecture du présent livre modifiera les idées, généralement erronées, du public en ce qui concerne le panthéisme. C'est une erreur de regarder les bouddhistes et les occultistes Advaita comme des athées. S'ils ne sont pas tous philosophes, ils sont du moins tous logiciens. Leurs objections et leurs arguments sont fondés sur un raisonnement rigoureux. En vérité, si l'on prend le Parabrahman des hindous comme représentant les divinités cachées et sans nom des autres nations, on trouvera que ce principe absolu est le prototype dont furent tirés tous les autres. Parabrahman n'est pas Dieu parce que ce n'est pas un Dieu. C'est ce qui est suprême et non suprême. Cela est suprême comme cause, non comme effet. Parabrahman est simplement comme réalité sans seconde, le cosmos qui contient tout, ou plutôt l'espace cosmique infini, au sens spirituel le plus élevé, naturellement. Brahman, entre parenthèses neutre, étant la racine immuable, pure, libre, incorruptible et suprême, unique existence vraie, Paramartika, et le Chit et Chaitanya, intelligence, conscience absolue, ne peut être connaisseur, car cela ne peut avoir aucun sujet de cognition. La flamme peut-elle être appelée l'essence du feu? Cette essence est la vie et la lumière de l'univers. Le feu et la flamme visibles ne sont que destruction, mort et mal. Le feu et la flamme détruisent le corps d'un ara. Leur essence le rend immortel. La connaissance de l'esprit absolu naît, comme la splendeur du soleil ou la chaleur dans le feu, autre chose que l'essence absolue même, dit Shankaracharya. Cela est l'esprit du feu, non le feu même. Aussi, les attributs de ce dernier, chaleur ou flamme, ne sont pas les attributs de l'esprit, mais de ce dont l'esprit est la cause inconsciente. La phrase ci-dessus n'est-elle pas la véritable note fondamentale de la philosophie rosicrucienne postérieure? Parabrahman est en résumé l'agrégation collective du cosmos dans son infini et dans son éternité, le cela et le ceci auquel ne peuvent s'appliquer les agrégats distributifs. Au commencement, ceci était le soi, un seulement. Le grand Shankaracharya explique que ceci se rapporte à l'universel, Jagat, Le sens des mots au commencement est « avant la reproduction de l'univers phénoménal ». Lors donc que les panthéistes font écho aux Upanishads qui déclarent, ainsi que la doctrine secrète, que ceci ne peut créer, ils ne nient pas un créateur, ou plutôt une agrégation collective de créateurs, mais seulement refusent, très logiquement, d'attribuer la création, et spécialement la formation, c'est-à-dire quelque chose de fini, à un principe infini. Pour eux, Parabrahman est une cause passive, parce qu'elle est absolue, la mukta inconditionnée. Il lui refuse seulement l'omniscience et l'omnipotence limitées, parce que ce sont encore des attributs, tels qu'ils sont réfléchis dans les perceptions de l'homme. Et parce que Parabrahman étant le tout suprême, l'esprit et l'âme à jamais invisibles de la nature, immuable et éternel, ne peut avoir d'attributs, l'absolu excluant tout naturellement tout rapport avec l'idée de fini ou de conditionné. Et quand les Védantins affirment que les attributs appartiennent simplement à son émanation qu'ils appellent Ishvara plus Maya et Avidya, agnosticisme ou néscience plutôt qu'ignorance, il est difficile de trouver de l'athéisme dans cette conception. Note. Néanmoins, certains orientalistes chrétiens prévenus ou plutôt fanatiques voudraient prouver que c'est là du pur athéisme. Voir Vedanta Sara du Major Jacob. Et pourtant, toute l'Antiquité répétait cette maxime védique, comme Lucrèce le dit, pure conception védique. C'est dans la nature des dieux de jouir de l'immortalité en même temps que de la plus haute paix. Puisqu'il ne peut y avoir ni deux infinis ni deux absolus dans un univers supposé sans limite, on ne peut guère concevoir cette soi-existence créant personnellement. Au sens et aux perceptions d'être fini, cela est non-être, parce que c'est l'unique être-té. Car dans ce tout gît caché son émanation coéternelle et contemporaine, ou son rayonnement inhérent, qui, devenant périodiquement Brahma, la potentialité mâle-femelle, s'étend en l'univers manifesté. Narayana, porté par les eaux abstraites de l'espace, devient les eaux de la substance concrète, mise en mouvement par lui, c'est-à-dire le Verbe ou Logos manifesté. Les Brahmanes orthodoxes, ceux qui s'élèvent le plus contre les panthéistes et les advaïtas qu'ils appellent athées, sont forcés, si Manu a quelque autorité en la matière, d'accepter la mort de Brahma, le créateur, à l'expiration de chaque âge de cette divinité créatrice, 100 années divines, période qui en année ordinaire ne peut s'exprimer que par un nombre de 15 chiffres. Pourtant, aucun de leurs philosophes ne comprend cette mort autrement que comme une disparition temporaire du plan manifesté de l'existence ou comme un repos périodique. Les occultistes sont donc d'accord avec les philosophes védantins Advaita sur cette doctrine. Ils montrent que l'impossibilité d'accepter sur le terrain philosophique l'idée du tout absolu créant ou même évoluant l'œuf doré dans lequel on dit qu'il entre pour se transformer en Brahma, le créateur, dont l'expansion postérieure constitue les dieux et tout l'univers visible. Ils disent que l'unité absolue ne peut devenir une infinité, car l'infinité présuppose l'extension illimitée de quelque chose et la durée de ce quelque chose. Et le tout un naît, comme l'espace, qui est la seule représentation mentale et physique sur cette terre, sur notre plan d'existence, ni un objet, ni un sujet de perception. Si l'on pouvait supposer que le tout éternel et infini, que l'unité omniprésente, au lieu d'être dans l'éternité, devienne, par des manifestations périodiques, un univers varié ou une personnalité multiple, cette unité cesserait d'en être une. L'idée de Locke, que le pur espace n'est capable ni de résistance ni de mouvement, est incorrecte. L'espace n'est ni un vide sans limite, ni une plénitude conditionnée, mais l'un et l'autre. C'est aussi, sur le plan de l'abstraction absolue, la divinité à jamais inconnaissable qui n'est vide que pour les esprits finis. Et sur celui de la perception mayavique, le plénum, le contenant absolu de tout ce qui est manifesté ou non manifesté. C'est, par conséquent, ce tout absolu. Il n'y a pas de différence entre ce que dit l'apôtre chrétien, quand il dit « En lui nous vivons, nous nous mouvons et avons notre être ». Et ce que dit le rishi hindou, « L'univers vit dans Brahma, procède de Brahma et retournera à Brahma, car Brahman, neutre, le non manifesté, est cet univers in abscondito, et Brahma, le manifesté, est le logos, représenté comme mâle-femelle dans les dogmes symboliques orthodoxes, le dieu de l'initié, apôtre et du rishi étant à la fois l'espace invisible et visible. L'espace est appelé en symbolisme ésotérique Mère, Père éternel aux sept peaux. Il est composé de sept couches, de sa surface non différenciée à sa surface différenciée. Qu'est-ce qui a été, qui est et qui sera, qu'il y ait un univers ou non, qu'il y ait des dieux ou qu'il n'y en ait pas ? Demande le catéchisme ésotérique Senzar. Et l'on répond, c'est l'espace. Ce n'est pas le Dieu un et inconnu toujours présent dans la nature, ou la nature in abscondito qui est rejetée, mais le Dieu du dogme humain et son verbe humanisé. Dans son immense suffisance et dans sa vanité, l'homme l'a formé lui-même de sa main sacrilège avec les matériaux qu'il a trouvés dans sa petite matrice cérébrale et l'a imposé au genre humain comme une révélation directe de l'espace unique et non révélé. Note. L'occultisme est vraiment dans l'air à la fin de notre siècle. Entre autres ouvrages, récemment publiés, nous en signalerons un aux étudiants de l'occultisme théorique qui ne veulent pas s'aventurer au-delà du domaine spécial de notre plan humain. New Aspect of Life and Religion du Dr. Henri Pratt. Ce livre est plein de dogmes ésotériques et de philosophies, celle-ci un peu limitée cependant, dans les derniers chapitres, par ce qui nous paraît être un esprit de positivisme conditionné. Néanmoins, ce qui est dit de l'espace comme la cause première inconnue mérite d'être cité. Citation. Ce quelque chose d'inconnu que nous venons d'identifier avec l'incarnation primitive de la simple unité est invisible et impalpable. L'espace abstrait, nous l'accordons. Et s'il est invisible et impalpable, il est par conséquent inconnaissable. Et c'est parce qu'il est inconnaissable qu'est née l'erreur qui consiste à le supposer comme un simple vide, une simple capacité réceptrice. Mais même quand on le considère comme un vide absolu, il faut admettre, ou bien que l'espace est soit existant, infini et éternel, ou bien qu'il a une première cause en dehors, derrière ou au-delà de lui-même. Et pourtant, si une telle cause pouvait être trouvée et définie, cela ne nous amènerait qu'à lui transférer les attributs qui autrement s'appliquent à l'espace, et ne ferait que rejeter d'un pas de plus la difficulté d'origine, sans que nous obtenions aucun supplément de lumière quant à la causation primaire. » Fin de citation. C'est là précisément ce qu'ont fait des croyants en un créateur anthropomorphe, en un dieu extracosmique au lieu d'intracosmique. Beaucoup, nous pouvons dire la plupart, des aperçus du docteur Pratt sont de vieilles idées et théories kabbalistes qu'il présente sous un vêtement moderne. Nouveaux aspects de l'occulte et de la nature en vérité. L'espace, cependant, regardé comme une unité substantielle, la source vivante de la vie, la cause inconnue et sans cause, est le plus vieux dogme de l'occultisme, antérieur de milliers d'années au pater éther des Grecs et des Latins. Il en est de même de la force et de la matière, comme potentialité de l'espace, inséparable et révélatrice inconnue de l'inconnu. On les trouve toutes dans la philosophie aryenne, personnifiées par Vishvakarman, Indra, Vishnu, etc. Pourtant, elles sont exprimées très philosophiquement et sous nombre d'aspects inusités dans l'ouvrage en question. Fin de note. L'occultisme accepte la révélation comme venant d'êtres divins, mais encore finis, des vies manifestées, jamais de la vie unique qui ne peut se manifester. De ces entités, appelées homme primordial, Dhyani Buddha ou Dhyan Chohan, les Rishi Prajapati des hindous, les Elohim ou fils de Dieu, les esprits planétaires de toutes les nations qui sont devenus des dieux pour les hommes. Ils regardent aussi l'Adi Shakti, émanation directe de Mula Prakriti, la racine éternelle de cela, et l'aspect femelle de la cause créatrice, Brahma, sous sa forme akashique d'âme universelle, philosophiquement connue comme une Maya, à cause de la Maya humaine. Mais cette manière de voir ne l'empêche pas de croire à son existence tant qu'elle dure, c'est-à-dire pour un Manvantara, ni d'employer pour des fins pratiques Akwasha le rayonnement de Mulaprakriti, car l'âme du monde est reliée à tous les phénomènes naturels, connus ou inconnus, de la science. Note. Par opposition à l'univers manifesté de la matière, le terme Mulaprakriti, de Mula, racine, et Prakriti, nature, ou la matière primordiale non manifestée, appelée par les alchimistes occidentaux terre d'Adam, est appliquée par les Védantins à Parabrahman. La matière est double dans la métaphysique religieuse et dans les doctrines ésotériques septuples comme tout le reste dans l'univers. Comme Mulaprakriti, elle est indifférenciée et éternelle. Comme Vyakta, elle devient différenciée et conditionnée, suivant la Svetashvatara Upanishad et le Devi Bhagavata Purana. L'auteur des conférences sur la Bhagavad Gita dit, en parlant de Mulaprakriti, « Au point de vue objectif du Logos, Parabrahma apparaît à ce Logos sous l'aspect de Mulaprakriti. Naturellement, cette Mulaprakriti est matérielle pour lui comme tout objet matériel l'est pour nous. Parabrahman est une réalité inconditionnée et absolue, et Mulaprakriti est une sorte de voile jeté par-dessus lui. » Fin de citation. Les plus vieilles religions du monde, exotériquement car leur racine ou fondation ésotérique est une, sont celles des Indiens, des Mazdéens et des Égyptiens. Puis vient celle des Chaldéens, rejetons des précédentes, entièrement perdues pour le monde actuel, sauf dans le sabéisme, défiguré, interprété à présent par les archéologues. Ensuite, en passant par-dessus nombre de religions dont nous parlerons plus tard, nous arrivons à la juive qui, ésotériquement, telle qu'elle est dans la Kabbale, suit la voie du magisme babylonien et, exotériquement, telle qu'elle est dans la Genèse et le Pentateuque, n'est qu'une collection de légendes allégoriques. Lus à la lumière du Zohar, les quatre premiers chapitres de la Genèse sont les fragments d'une page hautement philosophique de la cosmogonie du monde. Laissés sous leur déguisement symbolique, ils ne sont plus qu'un conte de fées, une vilaine épine dans le flanc de la science et de la logique, effet évident du karma. En les laissant servir de prologue au christianisme, les rabbis se vengèrent cruellement, eux qui savaient bien ce que voulait dire leur Pentateuque. C'était une protestation silencieuse contre la spoliation dont ils étaient l'objet, et les Juifs ont certainement le dessus sur leurs traditionnels persécuteurs. Les croyances ésotériques en question seront expliquées à la lumière de la doctrine universelle au cours de notre exposé. Le catéchisme occulte contient les traits suivants. Qu'est-ce qui est toujours ? L'espace, l'éternel Anupadaka. Qu'est-ce qui fut toujours ? Le germe dans la racine. Qu'est-ce qui sans cesse va et vient ? Le grand souffle. Il y a donc trois éternels ? Non, les trois sont un. Ce qui est toujours est un. Ce qui fut toujours est un. Ce qui est et devient sans cesse est un aussi, et c'est l'espace. Explique, ô Lanou, disciple. L'un est un cercle anneau sans circonférence, car il est partout et n'est nulle part. L'un est le plan sans borne du cercle, manifestant un diamètre pendant les périodes manvantariques seulement. L'un est le point indivisible trouvé nulle part, perçu partout durant ces périodes. C'est la verticale et l'horizontale, le père et la mère, le sommet et la base du père, les deux extrémités de la mère n'atteignant en réalité nulle part, car l'un est l'anneau comme aussi les anneaux qui sont dans cet anneau. C'est la lumière dans l'obscurité et l'obscurité dans la lumière, le souffle qui est éternel. Il procède du dehors au dedans, quand il est partout, et du dedans au dehors quand il n'est nulle part, c'est-à-dire Maya, l'un des centres. Il s'épand et se contracte, exhalation et inhalation. Quand il s'épand, la mer se diffuse et s'éparpille. Quand il se contracte, la mer se retire et se rassemble. Cela produit les périodes d'évolution et de dissolution, Manvantara et Pralaya. Le germe est invisible et ardent, la racine, le plan du cercle est frais. Mais durant l'évolution et le Manvantara, son vêtement est froid et rayonnant. Le souffle chaud est le père qui dévore la progéniture de l'élément aux nombreuses faces et laisse ceux qui n'ont qu'une seule face homogène. Le souffle frais est la mère qui les conçoit, les forme, les enfante et les reprend dans son sein pour les reformer à l'aurore du jour de Brahma ou Manvantara. Note. La philosophie ésotérique, regardant comme Maya ou l'illusion de l'ignorance toute chose finie, doit évidemment envisager sous le même jour toute planète et tout corps intracosmique, car ils sont quelque chose d'organisé et par conséquent fini. Aussi la phrase « il procède du dehors au dedans », etc., se rapporte dans sa première partie à l'aurore du Mahamandvantara, ou grande révolution, après l'une des complètes dissolutions périodiques de toute forme composée dans la nature, de la planète à la molécule, en son essence ou élément ultime, et dans la seconde au Mandvantara partiel ou local, qui peut être solaire ou même planétaire. Deuxième note. Centre veut dire un centre d'énergie ou un foyer cosmique. Lorsque la prétendue création ou formation d'une planète est accomplie par cette force que les occultistes appellent « vie » et les savants « énergie », alors le processus a lieu du dedans au dehors, chaque atome, paraît-il, contenant en lui-même l'énergie créatrice du souffle divin. Aussi, tandis qu'après un pralaya absolu, ou quand le matériel préexistant ne consiste qu'en un élément et que le souffle est partout, ce dernier agit du dehors au dedans, après un pralaya mineur, tout étant resté en statu quo, à l'état réfrigéré pour ainsi dire comme la lune, au premier frisson du Mandvantara, la planète où les planètes commencent leur résurrection à la vie, du dedans au dehors. Fin de note. Pour mettre le lecteur ordinaire mieux à même de comprendre, nous devons dire que la science occulte reconnaît 7 éléments cosmiques. 4 entièrement physiques et le cinquième, l'éther, semi-matériel. Ce dernier deviendra visible dans l'air vers la fin de notre quatrième ronde pour régner suprême sur les autres éléments durant toute la cinquième. Les deux autres sont encore absolument au-delà de l'horizon de perception humaine. Ces derniers cependant apparaîtront comme des pressentiments durant les sixième et septième races de la ronde actuelle et deviendront connus respectivement dans les sixième et septième rondes. Note. Il est curieux de remarquer comment, dans l'évolution cyclique des idées, la pensée antique semble se réfléchir dans la spéculation moderne. Herbert Spencer avait-il lu et étudié les anciens philosophes hindous lorsqu'il écrivit certains passages de ses premiers principes? Ou est-ce un éclair indépendant de perception intérieure qui lui fit dire, partie à tort, partie à raison, « Le mouvement, aussi bien que la matière, étant fixe en quantité, il semblerait que le changement qu'effectue le mouvement dans la distribution de la matière, arrivant à une limite, dans quelque direction qu'il soit poussé, l'indestructible mouvement nécessite alors un renversement de distribution. Apparemment, les forces universellement coexistantes de l'attraction et de la répulsion, qui, nous l'avons dit, nécessitent le rythme dans tous les changements secondaires effectués dans l'univers entier, nécessitent également le rythme dans la totalité de ces changements, et produisent tantôt une période immense durant laquelle les forces d'attraction étant prédominantes causent une concentration universelle, tantôt une immense période durant laquelle les forces de répulsion étant prédominantes causent une diffusion universelle, c'est-à-dire des aires alternatives d'évolution et de dissolution. Fin de note. Ces 7 éléments, avec leurs sous-éléments innombrables, beaucoup plus nombreux que ceux connus par la science, sont simplement des modifications conditionnelles et des aspects de l'élément un et unique. Celui-ci n'est pas l'éther. Note. Quelles que soient les vues de la science physique à ce sujet, la science occulte a enseigné depuis des siècles que l'aquasha, dont l'éther est la forme la plus grossière, le cinquième principe cosmique universel, auquel correspond et dont procède le manas humain, est cosmiquement une matière radiante, fraîche, diathermane et plastique, créatrice dans sa nature physique, corrélative dans ses aspects et portions, les plus grossières et immuables dans ses principes supérieurs. Dans la condition créatrice, il est appelé la sous-racine. Et en conjonction avec la chaleur radiante, il rappelle les mondes morts à la vie. Dans son aspect supérieur, c'est l'homme du monde. Dans son aspect inférieur, le destructeur. Donc celui-ci n'est pas l'éther, ni même l'aquasha, mais leur source. Le cinquième élément, que la science tend actuellement à admettre, n'est pas l'éther hypothétique de Newton. Bien qu'il lui donne ce nom, le tenant sans doute pour l'aether, le père-mère de l'Antiquité. Comme le dit avec intuition Newton, la nature travaille perpétuellement en cercle, engendrant des fluides par des solides, des choses fixes par des choses volatiles, et des choses volatiles par des choses fixes, des choses subtiles par des choses grossières, et des choses grossières par des choses subtiles. Ainsi peut-être toutes choses ont-elles leur origine dans l'éther. Fin de citation. Le lecteur ne doit pas perdre de vue que les stances données dans cet ouvrage traitent seulement de la cosmogonie de notre propre système planétaire et de ce qui est visible autour de lui après un pralaya solaire. Les données secrètes concernant l'évolution du cosmos universel ne peuvent être données parce qu'elles ne pourraient même pas être comprises par les plus grands esprits de notre âge, et il semble y avoir peu d'initiés, même parmi les plus élevés, à qui il soit permis de spéculer sur ce sujet. En outre, les instructeurs déclarent franchement que les plus hauts Dhyanishohan eux-mêmes n'ont pas pénétré les mystères au-delà des frontières qui séparent les myriades de systèmes solaires de ce que l'on appelle le Soleil central. Aussi, ce qui est donné ne se rapporte qu'à notre cosmos visible, après une nuit de Brahma. Avant que le lecteur porte son intérêt aux stances du livre de Dzian, stances qui forment la base de cet ouvrage, il est absolument nécessaire de lui faire connaître les quelques conceptions fondamentales qui soutiennent et pénètrent tout le système de pensée sur lequel nous appelons son attention. Ces idées basiques sont en petit nombre, mais leur claire compréhension importe absolument à ce qui suit. Il n'y a donc pas à s'excuser de lui demander de se familiariser avec celle-ci avant de s'attaquer à l'ouvrage lui-même. La doctrine secrète établit trois propositions fondamentales. Premièrement, un principe omniprésent, éternel, illimité et immuable, sur lequel toute spéculation est impossible puisqu'il transcende la puissance de conception humaine et ne pourrait être que rapetissé par toute expression ou comparaison. Ce principe est au-delà de l'horizon et de la portée de la pensée, d'après les paroles de la Mundakya Upanishad, inconcevable et innommable. Afin de comprendre ces idées plus clairement, que le lecteur parte de ce postulat qu'il existe une seule réalité absolue, qui précède tout être manifesté et conditionné. Cette cause infinie et éternelle, vaguement formulée dans l'inconscient et l'inconnaissable de la philosophie européenne courante, est la racine sans racine de tout ce qui fut, est ou sera jamais. Elle est naturellement dépourvue de tout attribut et essentiellement sans relation avec l'être manifesté et fini. C'est l'être-té plutôt que l'être en sanskrit sat, et c'est au-delà de toute pensée ou spéculation. Cet être-té est symbolisé dans la doctrine secrète sous deux aspects. D'un côté, l'espace abstrait, absolu, représentant la pure subjectivité, la seule chose qu'aucun mental humain ne puisse ni exclure d'aucune conception, ni concevoir par lui-même. De l'autre, le mouvement abstrait absolu, représentant la conscience inconditionnée. Nos penseurs occidentaux eux-mêmes ont prouvé que la conscience, distincte du changement, nous est inconcevable, et que le mouvement est le meilleur symbole du changement, sa caractéristique essentielle. Ce dernier aspect de l'unique réalité est aussi symbolisé par le terme « le grand souffle », symbole assez expressif pour n'avoir pas à être élucidé. Ainsi, le premier axiome fondamental de la doctrine secrète est cet « un » absolu métaphysique, l'être-té, que l'intelligence limitée a symbolisé par la trinité théologique. Il se pourrait cependant que quelques explications complémentaires fussent encore utiles. Herbert Spencer a récemment modifié son agnosticisme au point d'affirmer que la nature de la cause première, que l'occultiste plus logique dérive de la cause sans cause, l'éternel, l'inconnaissable, pouvait être essentiellement la même que celle de la conscience qui a sa source en nous. En un mot, que la réalité impersonnelle qui pénètre le cosmos est le pur noumen de la pensée. Ce pas en avant l'amène bien près des doctrines ésotériques et védantines. Parabrahman, l'unique réalité, l'absolu, est le champ de la conscience absolue, c'est-à-dire de cette essence qui est hors de toute relation avec l'existence conditionnée et dont l'existence consciente est un symbole conditionné. Mais une fois que nous sortons en pensée de cette négation, pour nous, absolue, la dualité survient dans le contraste de l'esprit ou conscience et de la matière, du sujet et de l'objet. L'esprit ou conscience et la matière doivent cependant être considérés non comme des réalités indépendantes, mais comme les deux symboles ou aspects de l'absolu Parabrahman, lesquels constituent la base de l'être conditionné, soit subjectif, soit objectif. Si nous considérons cette triade métaphysique comme la racine dont procède toute manifestation, le grand souffle assume le caractère de l'idéation précosmique. C'est le fons et origo de la force et de toute conscience individuelle, et il fournit l'intelligence qui guide le vaste thème de l'évolution cosmique. D'autre part, la substance radicale précosmique, Moola Prakriti, est cet aspect de l'absolu qui est le substratum de tous les plans objectifs de la nature. De même que l'idéation précosmique est la racine de toute conscience individuelle, ainsi la substance précosmique est le substratum de la matière dans ses divers degrés de différenciation. D'où il apparaîtra que le contraste de ces deux aspects de l'absolu est essentiel à l'existence de l'univers manifesté. Séparé de la substance cosmique, l'idéation cosmique ne pourrait se manifester comme conscience individuelle, puisque ce n'est qu'à travers un véhicule de matière que la conscience jaillit comme « je suis moi », une base physique étant nécessaire pour concentrer un rayon du mental universel à un certain degré de complexité. Et à son tour, séparée de l'idéation cosmique, la substance cosmique resterait une abstraction vide, et aucune apparition de conscience n'en pourrait résulter. L'univers manifesté est donc pénétré par la dualité qui est, pour ainsi dire, l'essence même de son existence comme manifestation. Mais de même que les pôles opposés de sujet et d'objet, d'esprit et de matière, ne sont que des aspects de l'unité dans laquelle ils sont synthétisés, ainsi dans l'univers manifesté, il y a ce qui lie l'esprit à la matière, le sujet à l'objet. Ce quelque chose, actuellement inconnu de la spéculation occidentale, est appelé par les occultistes Foat. C'est le pont au moyen duquel les idées qui existent dans la pensée divine sont imprimées sur la substance cosmique comme loi de la nature. Foat est donc l'énergie dynamique de l'idéation cosmique, ou bien, si on le regarde de l'autre côté, c'est le médium intelligent, le pouvoir qui guide toute manifestation. La pensée divine transmise et manifestée à travers les Dian Shoan, les architectes du monde visible. Ainsi, de l'esprit ou idéation cosmique vient notre conscience. De la substance cosmique viennent les divers véhicules, dans lesquels cette conscience est individualisée et arrive à la soi-conscience ou conscience réfléchissante. Tandis que Foat, dans ces diverses manifestations et le mystérieux lien entre l'esprit et la matière, le principe animateur qui électrifie tout atome et lui donne la vie. Le résumé suivant donnera une idée plus claire au lecteur. Premièrement, l'absolu, le parabrahman des Védantins ou unique réalité, Sat, qui est, comme le dit Hegel, à la fois être absolu et non-être. Deuxièmement, le premier logos, l'impersonnel et en philosophie le logos non manifesté, précurseur du manifesté. C'est la cause première, l'inconscient des panthéistes européens. Troisièmement, le second logos, esprit-matière, vie, l'esprit de l'univers, Purusha et Prakriti. Quatrièmement, le troisième logos, idéation cosmique, Mahat ou intelligence, l'âme universelle du monde, le noumen cosmique de la matière, la base des opérations intelligentes de la nature et dans la nature, appelée aussi Mahabuddhi. La réalité unique, ses aspects doubles dans l'univers conditionné. Note. Ces trois logoi subjectifs ne doivent pas être confondus avec les trois logoi objectifs de la manifestation. Quand le troisième logos subjectif devient le premier logos objectif, le mental universel Maha, infusant à toute chose la qualité d'intelligence. La doctrine secrète affirme en outre, deuxième principe, l'éternité de l'univers in toto, comme plan illimité, qui périodiquement est le terrain de jeu d'innombrables univers se manifestant et disparaissant incessamment, appelés étoiles qui se manifestent et étincelles d'éternité. L'éternité du pèlerin est comme un clin d'œil de la soi-existence, dit le livre de Zian. L'apparition et la disparition des mondes est comme le retour régulier du flux et du reflux. Note. Pèlerin est le nom nommé à notre monade, les deux en un, durant son cycle d'incarnation. C'est le seul principe immortel, éternel en nous, une partie indissoluble du tout intégral, l'esprit universel dont il émane et en qui il s'absorbe à la fin du cycle. Quand on dit qu'il émane de l'esprit unique, c'est une expression incorrecte et maladroite, mais l'expression exacte manque aux langues occidentales. Les Védantins l'appellent Sutratma, l'âme fil, mais leur explication diffère un peu de celle des occultistes. Fin de note. La seconde assertion de la doctrine secrète est l'universalité absolue de cette loi de périodicité, de flux et de reflux, de marées montantes et descendantes que la science physique a observée et notée dans tous les départements de la nature. Les alternatives du jour et de la nuit, de la vie et de la mort, du sommeil et de la veille sont choses si communes, si parfaitement universelles et sans exception qu'il est facile de comprendre que nous y voyons une des lois fondamentales de l'univers. La doctrine secrète affirme encore, troisième principe, l'identité fondamentale de toutes les âmes avec la surâme universelle, celle-ci étant elle-même un aspect de la racine inconnue, et le pèlerinage obligatoire pour toute âme, étincelle de la première, à travers le cycle d'incarnation ou de nécessité, en accord avec la loi cyclique et karmique durant le terme entier. Autrement dit, aucun bouddhi purement spirituel, c'est-à-dire âme divine, ne peut avoir une existence consciente indépendante avant que l'étincelle issue de la pure essence du sixième principe universel, ou la surâme, n'ait, petit a, passé par toutes les formes du monde phénoménal de ce Manvantara, et petit b, acquis l'individualité, d'abord par impulsion naturelle, puis par des efforts personnels volontaires et résolus, modifié par les restrictions de son karma, montant ainsi par tous les degrés de l'intelligence du manas le plus bas jusqu'au plus élevé, du minéral et de la plante jusqu'au plus saint des archanges, Dhyani Buddha. La doctrine pivot de la philosophie ésotérique n'admet pas de privilèges, ni de dons spéciaux pour l'homme, sauf ceux qui sont gagnés par son propre ego, avec une majuscule, à force d'efforts et de mérites personnels, au cours d'une longue série de métempsychoses et de réincarnations. C'est pour cela que les hindous disent que l'univers est Brahman et Brahma, car Brahman est dans tout atome de l'univers, les six principes de la nature procédant tous, étant les aspects différents et différenciés, du principe septième et un, l'unique réalité de l'univers, tant cosmique que microcosmique. Et c'est pour cela aussi que les permutations psychiques, spirituelles et physiques sur le plan de la manifestation et de la forme du sixième principe, Brahma, véhicule de Brahman, sont regardées par antiphrase métaphysique comme illusoires et mayaviques. Car bien que la racine de chaque atome individuellement et de toute forme collectivement soit ce septième principe, ou l'unique réalité, pourtant sous son apparence manifestée, phénoménale et temporaire, il n'est rien de plus qu'une éphémère illusion de nos sens. Dans son état absolu, l'unique principe sous ses deux aspects Parabrahman et Mula Prakriti est insexuel, inconditionné et éternel. Son émanation périodique, manvantarique ou rayonnement primordial est une aussi, androgyne et phénoménalement finie. Quand cette radiation rayonne à son tour, tous ces rayonnements sont encore androgynes, mais deviennent des principes mâles et femelles dans leurs aspects inférieurs. Après un pralaya, soit le grand pralaya, soit le pralaya mineur qui laisse les mondes en statu quo, le premier principe qui se réveille à la vie active est le plastique aquasha, père-mère, esprit et âme de l'éther, ou le plan du cercle. L'espace est appelé la mère avant son activité cosmique et père-mère au premier stage de son réveil. Dans la Kabbale aussi, il est père-mère-fils. Mais tandis que dans la doctrine orientale, ceux-ci sont le septième principe de l'univers manifesté, ou son Atma Buddhi Manas, esprit, âme, intelligence, la triade se ramifiant en sept branches, qui sont les sept principes cosmiques et les sept principes humains dans la Kabbale occidentale des mystiques judéo-chrétiens, c'est la triade ou trinité, et pour ses occultistes, le Jéhovah mâle-femelle, Jah-Hava. C'est en cela que consiste toute la différence entre les trinités ésotériques et chrétiennes. Les mystiques et les philosophes, les panthéistes d'Orient et d'Occident synthétisent leur triade pré-génétique dans la pure abstraction divine. Les orthodoxes l'anthropomorphisent. Hiranyagarbha, Hari et Shankara, les trois hypostases de la manifestation de l'esprit suprême, titre sous lequel Prithivi, la terre, salue Vishnu dans son premier avatar, sont les qualités abstraites et purement métaphysiques de formation, de conservation et de destruction. Ce sont aussi les trois avashtas, hypostases divines de ce qui ne périt pas avec les choses créées, ou Achyuta, nom de Vishnu. Quant aux chrétiens orthodoxes, ils séparent sa divinité personnelle créatrice en les trois personnes de la Trinité et n'admet pas de divinité supérieure. Celle-ci, pour l'occultiste, est le triangle abstrait, et pour l'orthodoxe, le cube parfait. Le dieu créateur, ou plutôt la collectivité des dieux créateurs, est regardé par le philosophe oriental comme Brantidarsanata, fausses apparences, quelque chose conçu en raison d'apparences trompeuses comme une forme matérielle, et l'on explique que ces dieux naissent de la conception illusoire de l'âme égotiste personnelle et humaine, cinquième principe inférieur. Cela est superbement exprimé dans une nouvelle traduction, dans les notes de Fitzgerald, ajouté à la traduction de Wilson du Vishnu Purana. Citation. Ce Brahma, dans sa totalité, possède essentiellement l'aspect de Prakriti évolué et non évolué, Mula Prakriti, et aussi l'aspect d'esprit et l'aspect de temps. L'esprit, ô deux fois né, est l'aspect dominant du suprême Brahma. Le suivant est un aspect double, Prakriti à la fois évolué et non évolué, et le temps est le dernier. Chronos, le temps est aussi représenté dans la théogonie orphique comme un dieu ou agent engendré. Fin de citation. À cette période du réveil de l'univers, le symbolisme sacré le représente comme un cercle parfait avec le point, la racine, au centre. Ce signe était universel, aussi le rencontrons-nous également dans la Kabbale. Pourtant, la Kabbale occidentale, actuellement entre les mains des mystiques chrétiens, l'ignore entièrement, bien qu'il soit clairement marqué dans le Zohar. Ces sectaires commencent à la fin et prennent pour symbole du cosmos prégénétique le cercle avec les deux droites perpendiculaires et l'appellent l'union de la rose et de la croix, le grand mystère de la génération occulte, d'où le nom de Rose-Croix. Comme on peut en juger, cependant, d'après les plus importants et mieux connus des symboles des Rose-Croix, il en est un qui n'a jamais encore été compris, même des mystiques modernes. C'est celui du pélican qui déchire sa poitrine pour nourrir ses sept petits, vrai credo des frères de la Rose-Croix et direct rejeton de la doctrine secrète orientale. Brahman neutre est appelé Kalahamsa, ce qui, d'après les orientalistes d'Occident, veut dire le signe éternel ou loi, et il en est ainsi pour Brahma le Créateur. Nous sommes ainsi conduits à relever une grande erreur. C'est de Brahman neutre qu'on devrait parler comme Hamsavahana, celui qui emploie le signe pour véhicule, et non de Brahma le Créateur. Car ce dernier est le vrai Kalahamsa, tandis que Brahman neutre est Hamsa et Ahamsa, comme cela sera expliqué dans les commentaires. Il faut bien comprendre que les termes Brahma et Parabrahman sont employés ici non pas parce qu'ils appartiennent à notre nomenclature ésotérique, mais simplement parce qu'ils sont plus familiers aux étudiants occidentaux. Tous deux sont les parfaits équivalents de nos termes à une, trois et sept voyelles qui s'appliquent au tout-un et à l'unique tout dans tout. Telles sont les conceptions fondamentales sur lesquelles repose la doctrine secrète. Ce n'est pas le moment d'en prendre la défense ou de donner des preuves de leur caractère inhérent raisonnable, non plus que de démontrer qu'elles sont en fait contenues, quoique trop souvent sous une apparence trompeuse, dans tout système de pensée ou de philosophie digne de ce nom. Du moment que le lecteur en a acquis une claire compréhension et saisi la lumière qu'elle jette sur chaque problème de la vie, elles ne demanderont pas d'autres justifications à ses yeux, parce que leur vérité leur apparaîtra aussi évidente que le soleil dans les cieux. Je passe donc au sujet traité dans les stances données dans ce volume, en les faisant précéder d'une esquisse structurale pour faciliter la tâche de l'étudiant en lui résumant l'ensemble. L'histoire de l'évolution cosmique, telle qu'elle est traitée dans les stances, est en quelque sorte la formule algébrique abstraite de cette évolution. L'étudiant ne doit pas s'attendre à y trouver un compte-rendu de toutes les étapes et transformations intervenues entre les premiers commencements de l'évolution universelle et notre état actuel. Donner un tel résumé serait aussi impossible qu'il serait incompréhensible à des hommes qui ne peuvent saisir la nature du plan d'existence le plus voisin de celui où pour le moment leur conscience est limitée. Les stances donnent donc une formule abstraite, applicable, mutatis mutandis, à l'évolution entière, à celle de notre petite Terre, à celle de la chaîne des planètes à laquelle appartient cette Terre, à l'univers solaire dont cette chaîne fait partie, et ainsi de suite dans une échelle ascendante jusqu'à ce que l'esprit chancelle et s'épuise dans l'effort. Les sept stances données dans ce volume représentent les sept termes de cette formule abstraite. Elles décrivent les sept grandes étapes du processus évolutif, dont il est parlé dans les Puranas comme des sept créations, et dans la Bible comme des jours de la création. La stance 1 décrit l'état du tout unique pendant le pralaya, avant la première vibration de la manifestation en voie de réveil. Un instant de réflexion montre qu'un tel état ne peut être que symbolisé. Le décrire est impossible. Il ne peut même pas être symbolisé que négativement, car, puisque c'est l'état de l'absolu percé, il ne peut posséder aucun de ces attributs spécifiques qui servent à décrire les objets en termes positifs. Cet état ne peut donc être suggéré que par les négatifs de tous ces attributs abstraits que les hommes sentent plutôt qu'ils ne conçoivent, comme les limites les plus éloignées que leur pouvoir de conception puisse atteindre. La stance numéro 2 décrit un état qui, pour un esprit occidental, est si rapproché de celui dont traite la stance numéro 1 que la seule expression de leur différence comporterait un volume. Il faut donc laisser à l'intuition et aux facultés supérieures du lecteur la tâche de saisir autant que possible la signification des phrases allégoriques qui s'y trouvent. En somme, ces stances font plus appel aux facultés internes qu'à l'intelligence ordinaire du cerveau physique. La stance numéro 3 décrit le réveil de l'univers à la vie après le pralaya. Elle peint l'émergence des monades de leur état d'absorption dans l'un. C'est la première et la plus haute étape dans la formation des mondes, le terme monade pouvant s'appliquer aussi bien au vaste système solaire qu'au plus petit atome. La stance numéro 4 expose la différenciation du germe de l'univers en la hiérarchie septénaire des pouvoirs divins conscients qui sont les manifestations actives de l'énergie une et suprême. Ce sont les mouleurs, les modeleurs et finalement les créateurs de tout l'univers manifesté, et cela au seul sens compréhensible du mot créateur. Ils lui donnent une forme et le guident. Ils sont les êtres intelligents qui ajustent et contrôlent l'évolution, incorporant en eux-mêmes ces manifestations de la loi une que nous connaissons comme les lois de la nature. Génériquement, ils sont connus sous le nom de Dhyan Chohan, bien que chaque groupe distinct ait sa désignation propre dans la doctrine secrète. Dans la mythologie hindoue, on note cette étape de l'évolution, la création des dieux. La stance numéro 5 décrit le processus de la formation du monde. D'abord se présente la matière cosmique diffuse, puis le tourbillon de feu, première étape de la formation d'une nébuleuse. Cette nébuleuse se condense et, après avoir passé par diverses transformations, forme un univers solaire, une chaîne planétaire ou une seule planète selon le cas. L'instance numéro 6 indique les étapes suivantes de la formation d'un monde et décrit l'évolution d'un tel monde jusqu'à sa quatrième grande période correspondant à celle dans laquelle nous vivons maintenant. L'instance numéro 7 continue cette histoire et trace la descente de la vie jusqu'à l'apparition de l'homme. Là s'arrête le premier livre de la doctrine secrète. Le développement de l'homme depuis sa première apparition sur cette terre pendant cette ronde jusqu'à l'état où nous le trouvons maintenant fait le sujet des volumes 3 et 4. Les stances qui forment la thèse de chaque section sont reproduites dans leur version moderne, car il serait plus qu'inutile de compliquer le sujet en y introduisant la phraséologie archaïque de l'original avec son style et ses termes déroutants. On donne des extraits des traductions chinoises, tibétaines et sanscrites du texte Senzar original des commentaires et gloses sur le livre de Zian. C'est la première fois que ces documents sont présentés en langage européen. Il est d'ailleurs presque inutile de dire qu'il n'est donné qu'une partie des sept stances, parce que leur texte entier ne serait compris par personne, si ce n'est quelques hauts occultistes. Et l'auteur de ces pages, ou plutôt l'humble rédacteur de cette œuvre, ne les comprendrait pas non plus davantage que la plupart des profanes. Pour faciliter la lecture de l'ouvrage et diminuer le nombre des notes marginales, il a été jugé à propos de placer côte à côte les textes et les commentaires, et d'employer, là où il le fallait, des noms sanscrits et tibétains, plutôt que des noms originaux. Et ce d'autant plus que tous ces termes sont des synonymes acceptés, les derniers n'étant guère employés qu'entre maître et séché la disciple. C'est ainsi que si l'on voulait traduire le premier verset, en ne se servant que des termes techniques employés dans l'une des versions tibétaines et Senzar, la première stance se lirait ainsi. Toag en zigyu dormis set korlo, zodmanas ziba, tu nyugsen, pa konch og, pa tiankam, pa lachoan, pa tenbrel shugni, dharma kaya seser, tencheng ne devient pas, Barnang et Sa en Govonid, Seul To Ginsin dans la nuit de Sunshan et Yongrum, Paranishpana, etc. Ce serait un pur abracadabra. Comme cet ouvrage est écrit pour l'instruction des étudiants de l'occultiste et non pour les philologues, nous pouvons éviter d'employer de tels termes étrangers partout où c'est possible. Les termes intraduisibles, seuls, incompréhensibles sans explication, sont conservés mais rendus dans leur forme sanscrite. Le lecteur se rappellera que ceux-ci sont d'ailleurs presque toujours le développement ultérieur de ce dernier langage et qu'ils appartiennent à la cinquième race racine. Le sanskrit tel qu'on le connaît maintenant n'était pas la langue des Atlantes. Et la plupart des termes philosophiques employés dans les systèmes de l'Inde de la période post-mahabharatique ne se trouvent pas dans les Védas ni dans les stances originales, mais il y a leurs équivalents. Le lecteur non théosophe peut, si bon lui semble, regarder tout ce qui suit comme un conte de fées, ou du moins comme une spéculation sans preuve de rêveur, ou encore comme une nouvelle hypothèse à ajouter aux nombreuses hypothèses scientifiques de tous les temps, les unes condamnées, les autres en simple position d'attente. Celles-ci ne sont pas dans tous les cas moins scientifiques que bien d'autres théories prétendues scientifiques et sont en tout cas plus philosophiques. Vu le grand nombre de notes et d'explications nécessaires, les renvois en bas de page sont marqués comme d'ordinaire, tandis que les phrases impliquant des commentaires sont spécifiées par des lettres. L'on trouvera de plus grands développements dans les chapitres sur le symbolisme, et quelques-uns de ces derniers contiendront même plus d'informations que les commentaires.